affabulé.
C'est ça. Affabulé. Affabulé.
Deux F.
わかりますよ、ジャンヌ.
Sounds like they were very happy.
Yes, they were.
もうどれぐらいこの列車に乗っているのか忘れてしまった。
Bonjour à toutes, bonjour à tous d'Étoiles plein les yeux, c'est votre magazine de cinéma sur Transistor et on se retrouve donc pour ce 117e numéro autour du film que sort Xavier Dolan, Ma vie avec John F. Donovan, cette grande fresque sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Avant de passer un entretien avec l'ingénieur du son et désormais réalisateur Félix Blum que j'ai pu rencontrer, puis on terminera bien sûr avec quelques conseils de sortie pour la semaine. Mais donc, la toile, c'est Ma vie avec John F. Donovan, et les yeux, ce sont ceux de Marie-Maë et Colline. Bonjour à toutes les trois.
Bonjour, Rémi.
Nous savons comment ça a commencé. Il a répondu à une de vos lettres de fans. Et à partir de là, une correspondance improbable a débuté, etc., etc. Pourquoi ne pas remonter au tout début, comment tout a commencé entre vous et John F. Donovan ?
Je venais d'avoir 11 ans. Les élèves à l'école se moquaient de moi parce que j'étais le petit nouveau.
Rupert ! Désolé.
Ma mère et moi, on ne se parlait pratiquement plus. Tous mes rêves s'étaient envolés. Le seul qui avait survécu, c'était John.
On choisira l'impression finale, Barbara.
Ouais, mais à Noël, t'auras un poney ?
Il avait tout entre les mains.
Ça sera tout pour aujourd'hui.
Les fans.
Merci à tous.
La gloire. L'amour.
Je suis le gars le plus chanceux sur Terre, oui.
C'est à ce moment-là que les gens ont commencé à s'interroger.
Alors voilà, toutes mes excuses pour cette abominable bande-annonce en VF, mais ça vous donne peut-être déjà un petit aperçu du film, et pour en savoir légèrement plus, alors qu'est-ce que ça raconte brièvement, Colline ?
Alors, brièvement, ça raconte trois choses qui se rejoignent. Le premier plan, on va dire, c'est la vie de John F. Donovan, qui est un acteur sur lequel tombe le succès, on va dire, et qui le gère plus ou moins bien. Le deuxième plan, c'est un petit garçon qui vit en Angleterre, qui n'est pas très bien dans sa vie, dans son école, et qui dit avoir une correspondance depuis plusieurs années avec ce John F. Donovan. Et le dernier plan, c'est ce petit garçon qui est devenu adulte, acteur, et qui fait une interview dans un café à Prague pour parler du livre qu'il vient de sortir, qui regroupe la correspondance qu'il a eue avec John F. Donovan.
Alors, est-ce que ça vous a plu, Maëlle ?
Eh bien, c'est difficile à dire, en fait. Je me suis posé la question, depuis je l'ai vu hier, et depuis hier je me pose la question, est-ce que ça m'a plu ou est-ce que ça m'a pas plu ?
C'est plutôt bon signe.
C'est plutôt bon signe. Bah non, pas forcément, parce que bah, les derniers films de Xavier Dolan, j'avais plutôt tendance à en sortir en me disant c'est sûr que ça m'a plu. Alors que là, en fait, on retrouve tout ce qui est bien chez Xavier Dolan, c'est-à-dire je trouve qu'on retrouve le côté humain, attachant, une sorte de tendresse, je trouve, dans sa caméra, et les côtés aussi qui sont un peu dans l'élan, dans l'exaltation, avec l'utilisation qu'il fait de la musique, et c'est des choses qui étaient déjà pas très fines de base, mais qui avec moi marchaient très bien en tout cas, et qui me plaisaient beaucoup. Enfin, je me rappelle la scène dans Mommy de la danse dans la cuisine, là il essaye d'en faire un petit simulacre dans la salle de bain. Bon, là, je m'avance déjà, mais bon, bref, on retrouve toutes ces choses-là qui sont quand même très chouettes, avec des plans qui sont beaux et des personnages attachants, mais avec un côté trop, en fait, j'ai l'impression, ou mal mené. Bah, plusieurs moments, justement, le côté musical, je trouve, est poussé à bout. C'est vraiment, on va traire la vache à lait jusqu'au bout. En fait, je pense à la scène où le petit garçon rejoint sa maman, par exemple. Ce moment-là, c'est juste too much.
C'est
du coup, ça ne fonctionne
trop,
pas.
Ouais.
Du coup, il s'enferme un petit peu dans son système. Mais est-ce que ça marche quand même, Marie ?
Bah, justement, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un peu comme une recette de cuisine, ce film. Tous les ingrédients en soi, ils sont. Donc, et tous les ingrédients indépendamment, ils sont et marchent. Quand ils sont tout seuls, enfin, je veux dire, les fruits sont bons, la pâte est bonne, les œufs sont bons, mais quand on met tout ensemble, au final, ça fait un film qui, je trouve, n'est pas aussi touchant que ces autres films, et n'est pas aussi, enfin, j'ai l'impression que l'alchimie fonctionne pas, en fait, quand on met tous ces ingrédients ensemble, même si, en soi, tous les ingrédients, ils sont, comme t'as dit, Maë, la musique, les plans rapprochés, tout ce qui fait des films de Dolan, voilà, tout ce qui est, tout ce qu'on aurait pu aimer dans les films précédents de Dolan. Mais tout ensemble, j'ai l'impression que l'alchimie n'a pas vraiment fonctionné. Et ça donne un film moins authentique et moins touchant. J'ai l'impression, enfin, j'ai ressenti ça comme ça en tout cas que les précédents films.
Moi, je rejoins un peu Marie et Maë. J'ai pas été touchée par le film. Enfin, j'ai pas été touchée vraiment par les personnages. La musique est omniprésente. Il y a vraiment un moment dans le film où il y a eu quelques secondes de silence et j'ai vraiment fait ah, mais pas parce qu'on sortait d'une scène avec des grosses basses et que c'était intense, c'est juste que ça faisait une heure et demie que c'était de la musique non-stop et que ça devenait presque trop mélodramatique, quoi. Ça en était à desservir les acteurs presque.
Oui, ça manque de travail sur le son, en fait, un peu. Hein.
On te retrouve bien là, mais...
Et oui, et il y a autre chose qui m'a vraiment gênée, bon, on en parlait un peu tout à l'heure, c'est le côté de la narration. En deux parties, justement, c'est ce que tu disais, Colline, avec le petit garçon devenu grand dans le café qui raconte à la journaliste, là, mais qu'est-ce que c'est que ce scénario avec la journaliste? D'abord, oh, moi, je l'aime pas, celui-là.
Et en une phrase, oh, je vous adore, continuez à parler.
Et tout d'un coup,
le courant passe d'un coup et puis tout va bien. C'est un peu trop, encore une fois, là, j'ai l'impression.
Oui, c'est ça, trop happy end. Voilà, au début, ils se détestent, à la fin, ils s'adorent. Je pense que la volonté, c'était de couper l'herbe sur le pied à nos critiques, en fait, au fait qu'on s'en foute de cette histoire du petit garçon qui échange des lettres avec un artiste, etc. Mais je trouve qu'en fait, il n'a pas compris où seraient nos critiques. Et du coup, il coupe l'herbe sous le pied à rien, parce que j'aurais personnellement très bien accepté cette histoire sans la critiquer, parce que ce n'était pas les bons sujets. C'est un peu le... Bon, je m'embrouille pour les auditeurs, c'est d'être incompréhensible pour ceux qui n'ont pas vu le film qui plus est. En gros, la journaliste reproche au garçon qui a publié les lettres d'avoir fait en fait quelque chose qui n'intéresse que lui, qui n'a aucun intérêt parce que finalement c'est qu'un artiste pourri gâté comme un autre et un gamin qui raconte cette histoire et que du coup ça n'a aucun intérêt pour la société, le monde, voilà, les grands enjeux, racisme, sexisme, homophobie, c'est ce qu'il raconte d'ailleurs dans le film. Et Xavier Dolan s'en justifie en faisant justement toute une sorte de dialogue entre le garçon, le petit garçon devenu grand et cette journaliste et en les faisant à la fin se réconcilier parce qu'il tombe sur un d'accord sur le fait qu'en fait cette histoire est importante et peut nous apporter à nous spectateurs.
Moi, tous ces plans avec la journaliste ne m'ont apporté aucun intérêt, m'ont sorti du film. J'ai pas compris pourquoi il avait voulu faire ce troisième plan en fait. Est-ce que c'était juste pour nous dire non, en fait, regardez, le petit garçon va bien, il s'est pas suicidé à l'adolescence et finalement il s'en est sorti dans la vie. Je comprends pas ce troisième plan. Et...
Oui, c'est un peu ouais, trop appuyé, comme quand tu dis à un moment ils ont tout un dialogue sur oui, ce qu'on fait là c'est important pour le monde, pour la vie, pour l'art en général, etc. Mais on aurait pu le comprendre ça nous tout seuls sans qu'on nous le dise de manière aussi évidente et peut-être qu'il aurait mieux fait de le suggérer, parce que c'est quand même suggéré aussi, c'est présent, ça affleure partout à la surface du film, quoi, sans que ça soit aussi appuyé, aussi... aussi un peu outré, peut-être pareil les scènes du début, je pense au petit garçon qui est complètement fan de la série là et qui commence à crier comme un fou devant son écran.
J'ai bien aimé cette scène.
Ouais, non, c'est vrai que c'est, enfin, il y a quand même à regarder, c'est pas, on se dit pas c'est affreux, c'est horrible, mais voilà, je trouvais qu'il y avait quand même des scènes où c'était, comme on disait tout à l'heure, trop appuyé pour que ça soit vraiment vraiment touchant, comme la scène des retrouvailles avec la mère sous la pluie ou d'autres scènes un peu comme ça, ou des scènes où le petit garçon se fait un peu malmener par les... Enfin, subit les moqueries de ses copains de collège. Parfois, c'est un peu trop...
Pour le coup, moi, la scène du petit garçon devant qui regarde sa série, au contraire, je l'ai trouvée très bonne, parce que, justement, c'était un peu original. Il était tellement hystérique qu'il y avait quelque chose d'intelligent, et d'ailleurs, le petit garçon jouait très bien.
Très bien, oui.
Voilà, oui, c'est les côtés vraiment plus attendus, comme la scène des retrouvailles, mais tout moche, je sais, tout moche, limite, il nous a mis un ralenti, où il se courait dans les bras.
Il nous a mis un ralenti.
Ah bon ? Merde, il l'a fait. Enfin, voilà, c'est plutôt ces scènes-là qui m'ont dérangée...
Alors, formellement, quand même, est-ce que Dolan poursuit ces innovations un peu tape à l'œil qu'on a connues dans les précédents films, des jeux sur les cadres, sur les lumières? Est-ce que Dolan finit par s'assagir dans sa propre exubérance, dans la direction d'acteur peut-être aussi
Bah, j'ai l'impression qu'il y a un jeu sur les cadres, mais là encore, ça m'a pas du tout aidé à rentrer dans le film, parce que j'ai l'impression que le film commence en très très gros plan, et s'élargit au fur et à mesure. Alors le cadre s'élargit pas comme dans Mommy, mais juste la caméra s'éloigne petit à petit. Et le fait qu'au départ on soit très 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 proche de tous les acteurs, moi ça m'a procuré un espèce de mouvement de rejet. Je les ai pas compris, je les ai pas saisis dans leur ensemble. Alors c'est peut-être voulu du coup cet élargissement, mais au moment où ça s'élargit, j'étais déjà trop indifférente aux personnages pour les aimer réellement.
Sinon, il y a un jeu sur les couleurs aussi. J'ai eu l'impression avec des couleurs qui sont tantôt rouges, vertes, enfin des couleurs très colorées. et qui, le plan d'après, sur des plans larges plutôt de la ville, qui retourne sur une grille, le New York pluvieux, etc. Ça, pour le coup, je trouvais que ça marchait plutôt bien. Ça contribue à ces moments d'exaltation, finalement, qui sont des moments, on est dans les bleus de la boîte de nuit, on est dans le rouge, on est dans des couleurs... intense en fait, qui vont avec la musique.
Ficelles, quoi.
Oui, ce sont des grosses ficelles, mais ça on est habitué. Mais d'habitude ça marche en fait, c'est ça le problème. D'habitude je lui reproche pas parce que elles font leur effet ces ficelles quoi.
C'est exactement ça, on a l'impression qu'en fait là tout ce qui marchait jusqu'alors, je sais pas, ça fonctionne pas, ça prend pas. Et peut-être parce que justement il a peut-être voulu faire un peu un film avec plein de références à ses autres films, ou je sais pas, enfin tenter de faire quelque chose de, je sais pas, une sorte de film somme de tout ce qu'il avait déjà fait en quelque sorte, et que du coup ça fonctionne pas parce qu'il est moins dans l'authentique, je sais pas, peut-être trop dans le complexe avec cette intrigue, ces récits enchâssés, je sais pas, quelque chose qui prend pas. Alors que pourtant, il y a quand même des plans, des scènes qui sont intéressantes.
Alors, est-ce qu'on le conseille, Ma vie avec John F. Donovan? Déçu quand même?
Oui, quand même, il y a du côté bien.
Mais allez voir, faites-vous votre propre avis.
Coup de projecteur encore une fois sur les reflets du cinéma ibérique et latino-américain à Villeurbanne, et en particulier sur un film qui était projeté ce samedi, Curupira, bête des bois, c'est son titre. Il est réalisé par Félix Blum, et à l'issue de la projection, j'ai pu rencontrer le réalisateur.
Diz que ela faz a gente se perder no mato, né? É invisível, só aparece, dizem que só aparece quando quer. Mas a gente sente aquele animal. A gente sente. Eu já senti.
Donc Félix Blum, bonjour.
Bonjour.
Vous présentez ce matin au Zola Curupira, bête des bois. Alors on vous connaît nous un peu à Transistor pour vos travaux sur le son. Vous avez une formation de preneur de son, d'ingénieur du son. Vous avez bien sûr déjà travaillé pour le cinéma, mais comment on en vient à la vidéo dans un travail personnel sur le son?
Ben en fait c'est un peu, voilà, ça s'est fait en faisant. Donc moi j'ai principalement une carrière d'ingénieur du son pour des projets d'autres personnes, donc soit plutôt documentaire au départ, en tout cas plutôt prise de son documentaire, et puis petit à petit c'est aussi un peu de fiction, aussi de l'art vidéo, de la radio, mais toujours en travaillant comme ingénieur du son, enfin en tout cas pour des projets qui ne sont pas les miens. Et puis petit à petit j'ai commencé des projets, des projets à moi. Des projets personnels, d'abord en travaillant avec ces matières-là que j'avais enregistrées pour d'autres, et puis petit à petit en faisant mes projets à moi. Et pour ce projet-là, ben, en fait, ça s'est fait donc en faisant, comme je disais, puisque je suis allé dans la forêt amazonienne pour enregistrer des sons, sans autres objectifs, on va dire, et petit à petit, j'ai enregistré aussi les récits des gens, et c'est comme ça que l'image est en fait arrivée, c'est la nécessité de sous-titrer ces récits, et de pour que ça soit compréhensible dans d'autres endroits que le Brésil, puisque c'est la langue portugaise du Brésil, du nord du Brésil, qu'on entend dans la Curupira. Et donc le fait de mettre des sous-titres, ça implique donc du coup une image, et puis ensuite j'ai comblé les moments noirs entre les sous-titres avec des images filmées, et c'est comme ça que ça a devenu, c'est devenu un objet plus proche d'un film que d'une création sonore, mais je crois que ça reste encore entre les deux, quoi.
Alors du coup, dans ce film, on voit alterner des séquences où des personnages ou des gens munis d'un casque écoutent quelque chose, des séquences où sur une image noire, donc on a des témoignages, des histoires qui sont racontées, et puis le son de la nature qui est omniprésent sur ces deux parties du film, enfin sur ces deux éléments qui alternent. Comment vous avez travaillé pour ce film ?
Alors, la forme s'est trouvée vraiment à la fin, hein, cette forme-là, celle d'alternance, elle s'est un peu imposée d'elle-même, quoi. Mais disons qu'en fait, il y a ces trois matières donc, que tu as citées, il y a la nature, la forêt, il y a les récits, les témoignages des habitants de cette forêt, et puis il y a ces habitants-là, en fait, qu'on voit à l'image en train d'écouter les sons. Et ça s'est fait aussi en plusieurs parties. En fait, donc, quand je suis allé dans ce petit village, Tawari, mon idée c'était de me retrouver un peu loin des grandes villes de la forêt amazonienne. Donc on est à plus ou moins 600 km de Manaus, à l'ouest. Et là j'ai cherché en fait, un petit village dans lequel je pourrais aller. Et il se trouve que ce petit village en question, Tawari, ils avaient envie d'accueillir des touristes. Et donc voilà, j'étais le premier touriste à arriver là-bas et le premier touriste à être accueilli. Et donc ma présentation comme touriste, c'était évidemment avec un micro. Donc on est allé en fait enregistrer beaucoup dans la forêt. Alors moi j'enregistrais, mais par contre on écoutait en fait tout le monde écoutait, puisqu'il fallait rester voilà parfois 2-3 heures au même endroit pour attendre qu'il y ait des sons qui arrivent ou pas. Et donc ça se faisait avec différentes personnes du village. C'est un petit village où il y a une vingtaine de familles, donc c'est assez petit. Et du coup, petit à petit, j'ai commencé aussi à poser des questions et à enregistrer les récits. Donc pas faire uniquement les sons de la nature, les sons de la forêt, mais aussi faire les sons de ses habitants. Et c'est comme ça qu'il y a eu plusieurs récits dans lesquels il y a eu cette histoire de cette créature qui s'appelle la Kurupira et qui est devenue un peu la ligne narratrice du film. Et vers la fin du séjour, j'ai commencé aussi à filmer ces gens qui sont en train d'écouter, puisque en fait, quand on partait écouter dans la forêt, souvent je leur passais mon casque ou j'avais un casque en plus. Et donc on se retrouvait à écouter ensemble. Et en fait, le film, c'est aussi cette idée-là, c'est d'inviter aussi le spectateur à écouter. Donc c'est écouter ensemble avec les habitants, écouter leur son de la nature, les sons de cette créature. Et c'est comme ça que cette forme a pris cette forme-là. Pendant le montage, j'ai commencé par monter le son, monter les récits, et ensuite j'ai mis les sous-titres, et ensuite voilà, dans les espaces noirs, j'ai mis les images. Et puis finalement, au départ, je pensais que c'était plutôt un travail sonore, et puis après, quand en le montrant, j'ai mis que c'est plutôt quand même plutôt un film. Et puis voilà, ça reste un peu cet objet hybride. Mais c'est vraiment en faisant que la forme s'est un peu imposée d'une certaine manière.
Alors un objet qui est aussi hybride par sa durée, 35 minutes, c'est assez court pour un film. Quelque part, c'est quand même assez long pour cette évocation de cette bête des bois. Mais justement, c'est une invitation à prendre le temps, d'écouter. Et vous essayez, j'imagine, de montrer aussi comme le son suscite les imaginaires à travers ce film et cette bête qu'on ne voit pas et qu'on n'est même pas sûr d'entendre.
Oui, bien sûr, je pense que c'est la grande force du son, c'est de pouvoir ne pas nous montrer. Donc ce qu'on ne montre pas, on peut l'imaginer. Et donc en écoutant toutes ces personnes qui décrivent cette créature, chacun a une image différente de cette créature. Et surtout, on ne la voit pas. Et même dans ce que je montre, dans ce qu'on voit à l'image, je crois que justement le gros problème de l'image, c'est qu'elle montre en général. Donc là, c'est plutôt laisser le hors-champ nous permettre d'imaginer cette forêt. Donc on voit les gens écouter cette forêt, on voit les portraits des habitants, mais on ne voit pas la forêt en elle-même et on l'imagine. Et cela dit, c'est quelque chose qui se passe aussi dans la forêt, c'est que dans la forêt amazonienne, en tout cas, on entend beaucoup, mais on ne voit pas beaucoup. Parce qu'il y a toujours beaucoup de sons, beaucoup d'animaux, beaucoup de choses qui se passent, mais qui sont toujours cachées entre les arbres, qu'on a du mal un petit peu à discerner ou à voir. Et donc c'est un peu cette proposition aussi de ce film où de laisser écouter mais sans montrer. Et pour la durée, c'est vrai que 35 minutes, ça c'est un peu c'est un peu cette durée. Au départ, la première version de montage était un peu plus longue, et puis j'ai fait 2-3 visions test et les gens trouvaient ça un peu trop long, donc du coup j'ai raccourci un peu. Aujourd'hui, après la projection, les gens ont dit que c'était trop court. Mais donc c'est toujours dur de trouver la bonne durée. Et puis c'est vrai que dans une salle, on pourrait l'avoir encore plus long parce qu'on est vraiment, avec le son aussi, ils se rendent et tout ça, on est vraiment immergé. Peut-être un peu moins quand on le regarde, si on le regarde sur un petit écran ou si on regarde sur son ordinateur, quoi. Donc c'est dur de trouver la bonne durée. Puis bon, comme j'ai fait un peu ce film tout seul, donc c'est bien parce que j'avais aucune contrainte de temps, j'avais pas besoin d'être dans une case ou dans une autre. J'ai même pas la nécessité de faire quelque chose. Je pouvais aussi très bien dire que je faisais rien. Mais voilà, donc c'est l'avantage d'être libre, de faire les choses tout seul, mais c'est aussi de faire tout seul, ça prend du temps et parfois, peut-être on fait pas les bons choix non plus.
Le film est construit un petit peu comme une polyphonie de voix et de visages, du coup aussi. La place que vous accordez aux voix est souvent celle un peu d'une polyphonie. Je repense au Gritos de Mexico, où on avait aussi ces voix qui finissaient constituer un cœur, et on ressent face à aussi ces visages qui écoutent et donc ces voix qui racontent une espèce d'humanité commune qui se détache sur ce fond de nature. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez voulu parler aussi, ces rapports et peut-être cette frontière entre l'humain, le naturel et donc le surnaturel qui vient éclairer tout ça?
Oui, alors pour les voix, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'intéresse depuis le début de mon travail personnel. C'est toujours la voix. Je trouve que la voix raconte beaucoup sur la personne. Elle raconte beaucoup plus que les mots, je trouve, en général. Et donc, c'est vrai que jusqu'à maintenant, je m'étais plutôt concentré sur des voix qui n'ont pas, du coup, une charge narrative ou qui racontent pas vraiment un récit. Et là, c'est la première fois où, justement, il y a les voix racontent sur la personne, mais les voix racontent aussi une histoire. Et donc, la voix, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui permet de dans ce cas-là de décrire des choses qu'on ne voit pas et qu'on n'est pas sûr d'entendre, en effet. En effet, sur la nature et l'humain, moi j'aime justement bien, j'étais là-bas un peu comme apprenti audio-naturaliste, donc dans l'idée de d'enregistrer les sons de la nature, mais sans avoir une grande connaissance en fait des animaux, de l'ornithologie ou de la nature. En fait, j'ai découvert tout ça avec eux, et puis j'ai beaucoup aimé apprendre les noms que eux donnent à ces animaux, que eux donnent à ces oiseaux, et qui ont d'ailleurs tous une très grande connaissance. Mais j'aime bien dire que dans cette nature, j'inclus aussi l'humain, et que cette frontière justement entre l'humain et la nature, c'est pas une frontière, mais c'est plutôt un tout. Et surtout dans un endroit comme ça, où les gens vivent vraiment en pleine nature, ils en font partie, c'est eux qui la protègent aussi. Et donc le surnaturel aussi ferait partie de cette nature, et donc ce surnaturel qui a aussi sa raison d'être, qui n'est pas uniquement quelque chose de complètement farfelu. C'est, je trouve que cette légende, et comme beaucoup de légendes ou beaucoup d'histoires, elles ont une raison d'être, et une raison principale, c'est de protéger justement la nature et d'être garant ou d'être garante de cet équilibre entre humain et nature, et que les humains n'abusent pas trop de la nature. Et donc cette créature-là, pour moi, c'est un peu cette figure. C'est quelqu'un qui protège la nature et qui fait qu'on peut se servir de la nature. On peut y planter des choses, on peut y chasser, mais toujours en étant dans une responsabilité et en faisant ça de manière raisonnable, quoi.
Tout à l'heure, à la fin de la projection, le film a un peu été présenté comme un piège où on nous vend un film où on voit des choses et finalement on en écoute. Quelle est la réception de ce film qui a été présenté à un certain nombre d'endroits en Europe et puis aussi à l'endroit même où il a été tourné?
Alors c'est vrai que les réactions sont très différentes, et puis selon les contextes, en fait, le public aussi est très différent. C'est vrai que la semaine dernière, il est rentré dans un festival est plutôt expérimental, et donc du coup il devient très classique parfois, mais souvent il a un peu c'est-à-dire qu'il est un peu entre deux eaux. C'est pas vraiment une pièce sonore parce qu'il y a des images, pas vraiment un film parce qu'il n'y a pas beaucoup d'images, il n'y en a pas assez, et c'est pas non plus une pièce de radio parce que sinon on ne peut pas la comprendre. Donc mais j'aime assez bien qu'il soit, ça m'intéresse justement les frontières, les choses qui ne sont pas tout à fait claires, et d'être entre deux eaux. Et jusqu'à maintenant, elle a plutôt été bien reçue dans différentes... Il a été montré comme ça, mais il a aussi été montré comme installation. En ce moment, il est montré comme installation dans un musée. Et à Berlin aussi, il a été montré pendant un mois aussi comme installation. Donc c'est-à-dire dans un endroit où on peut rentrer et être seul ou être accompagné. Donc le film est là pendant toute la journée. Donc il y a plusieurs formes, plusieurs réactions. Mais c'est vrai que oui, c'est un peu un piège dans ce sens-là où... Je pense que si je disais venez écouter une pièce sonore, c'est plus compliqué de ramener le public, alors que si on leur dit venez voir un film, ils viennent, et puis finalement ils sont piégés pour entendre. Et j'aime assez bien cette idée justement de voilà de proposer une écoute alors que enfin proposer une écoute via la salle de cinéma, je crois que c'est quelque chose de chouette. Et par rapport au retour, ben voilà, c'est vraiment très différent selon les endroits. Mais par exemple dans un petit ville, la petite ville qui est donc à 1h30 plus ou moins du village où je l'ai filmé, il y a eu plein de questions avec des gens qui faisaient des jeunes qui faisaient plutôt des courts métrages de vampires dans la forêt avec les moyens du bord, quoi. Et ils étaient voilà tout à fait sûrement piégés aussi d'une certaine manière parce qu'ils mais voilà ça là je pense qu'ils étaient plein de questions très intéressantes sur la manière de procéder de comment j'étais arrivé à travailler le son ou comment est-ce que j'avais choisi l'écran noir quoi et en fait c'est pas que j'ai choisi l'écran noir j'ai choisi plutôt de mettre des images de temps en temps mais je pense que ça vient aussi de mon travail en général et puis de la construction, c'est-à-dire que c'est vraiment une construction sonore sur laquelle je suis venu plaquer quelques images pour illustrer les sons, on va dire. Et en général, on a tendance plutôt à faire le contraire, c'est-à-dire à faire le montage image et ensuite on met des sons pour illustrer les images. Donc c'était vraiment voilà, le chemin inverse.
Un film en tout cas bien reçu ici au Zola et qu'on recommande donc à nos auditeurs ainsi que le reste de votre travail. Merci beaucoup Félix Blum. On continue comme d'habitude avec quelques petits conseils de sortie au cinéma cette semaine. Et c'est un film qui sort donc ce mercredi 27 mars, Synonyme de Nadav Lapid, qui suit Yoav, jeune Israélien, lequel atterrit à Paris avec l'espoir que la France et la langue française le sauveront de la folie de ce pays. Ce film qui a valu au réalisateur israélien Nadav Lapid un ours d'or au tout dernier festival de Berlin et qui sort donc cette semaine.
Is it you?
Je ne veux pas travailler.
Je suis arrivé en France pour fuir Israël. Fuir cet état méchant, abominable Dieu, lamentable, répugnant, détestable, abruti, étriqué, bas d'esprit, bas de cœur.
Aucun pays n'est tout ça à la fois. Choisis.
Les ducs, les duchesses, les princes, les princesses.
Qu'est-ce que tu vas faire ici?
Je ne sais pas. Je serai français.
L'événement cette semaine pour tous les amateurs de films noirs et de thrillers, c'est évidemment l'incontournable festival Quai du Polar qui se tiendra donc à partir du 29 mars avec un certain nombre de projections de films. Je liste dans le désordre Phantom of the Paradise de De Palma, Memento, Les Nouveaux Sauvages LA Confidential, L'Horloger de Saint-Paul en présence de Bertrand Tavernier, La Chasse de Winterberg, Drive, Fargo ou encore Pulsion. Bref, tout un tas de belles projections que vous pouvez bien sûr retrouver sur le site du festival www.quaidupolar.com. Puis du côté du patrimoine, je vous propose de voir ou de revoir cette semaine l'un des films de la rétrospective que l'Institut Lumière consacre toujours à Vittorio De Sica, peut-être moins connu que ceux dont nous avons déjà parlé ici, Choucha, film de 1946, le premier film engagé du cinéaste qui dénonce les injustices, les atrocités de la guerre et qui se déroule en 1945 à Rome, autour de deux enfants, des milieux populaires qui vivent de trafic divers et puis sont arrêtés et mis en prison. Un très beau portrait, très touchant, qui sera projeté à l'Institut Lumière, entre autres ce jeudi et puis ce mardi prochain. Il y aura encore quelques autres projections en avril pour les retardataires. Voilà, c'est Choucha de Vittorio De Sica. Enfin, avant de se quitter, un dernier petit conseil avec notre ami Flavien Poncet des Cinémas Lumière.
Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du film « Les oiseaux de passage » qui passera aux Lumières Terreau le lundi 1er avril en avant-première. Ce sera à 21h. C'est le nouveau film du réalisateur colombien Ciro Guerra qui avait beaucoup marqué pour « L'étreinte du serpent ». Alors tout de suite, je vous le dis, avec « Les oiseaux de passage », oubliez Sicario, oubliez la série Narcos. C'est un film qui revient sur l'origine, aux accents très mythologiques d'ailleurs, des cartels, du trafic de drogue, du rapport entre le Mexique, notamment la Colombie en particulier, et les États-Unis autour de ce trafic de drogue-là. C'est un film qui est magnifique, qui est en même temps porté par toute une galerie d'acteurs géniaux et qui est éminemment politique. C'est un film qui est poétique, un vrai film d'action et profondément politique. Et je vous le conseille donc, c'est Les Oiseaux de Passage.
Ok, soldier. I'm coming out. Ok, soldier. I got no gun and I'm coming out. Soldier!
Vous écoutiez D'étoiles plein les yeux avec cette semaine Maë Burla, Colline Lafontaine, Marie Douniac, Rémi Cerda. On se retrouve bien sûr dès la semaine prochaine. Le film au programme, ce sera Sunset de Laszlo Nemes. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine dans les salles obscures.
I want you to calm down.